parti le générique.
Bon, ben allez. Bonsoir, donc bienvenue sur la radio Armada. Veuillez nous excuser pour le retard. Un petit problème de connexion car nous sommes toujours confinés, donc enregistrés à distance. Et donc c'est la revue de détail avec Jean-Pascal le mercredi soir. Donc c'est de 18h à 18h30. Ben là, ça sera de 18h30 à 19h. Alors la revue de détail, c'est l'actu des réseaux sociaux décryptée pour vous en direct. Une semaine d'actu analysée sous l'angle politique critique de la radio vis-à-vis des pouvoirs en place. Et cette semaine, le thème, c'est « Coucou les marcheurs hors sol, atterrissage forcé dimanche, point d'interrogation ». Alors, on va commencer avec notre rubrique argent. Coronavirus, tout d'abord. Novartis arrête son étude sur l'hydroxychloroquine. Dans son communiqué, Novartis explique avoir pris, je cite, « la décision de mettre fin à l'essai clinique contre le Covid-19 qu'elle parraine en raison de graves difficultés de recrutement de participants », fin de la citation, rendant impossible la finalisation de l'étude. Et pourtant, le 20 avril, le groupe avait annoncé avoir conclu un accord avec l'Agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration, pour procéder à des essais cliniques de phase 3 de l'hydroxychloroquine sur des malades hospitalisés. Ces essais visaient à évaluer l'utilisation de ce traitement auprès d'environ 440 malades sur une dizaine de sites aux États-Unis. Novartis précise qu'au cours de l'étude, je cite, « aucun problème de sécurité n'a été signalé, mais que cette étude n'a pas permis de tirer des conclusions sur l'efficacité du produit contre le nouveau coronavirus. » L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a aussi renoncé la semaine dernière aux essais sur ce traitement, arrivant à la conclusion que cet antipaludéen ne réduisait pas le taux de mortalité des malades du Covid hospitalisés. Quand on pense alors au débat planétaire qui a secoué le paysage audiovisuel, on a une question sur les lèvres. À combien de taux de rentabilité plancher a-t-on fixé l'investissement humain dans les arcanes du conseil d'administration du labo ? Point d'interrogation. Et alors attention qu'on ne nous pipote pas avec la carte de participants. Aux USA, le nombre de malades a été l'un des plus hauts du monde. Par contre, ils n'ont peut-être pas voulu être désinfectés à l'eau de Javel. Alors, Mediapart, on apprend sur RT France, donc la chaîne russe version française, que l'État a rejeté la requête de Mediapart d'avoir accès aux documents permettant de savoir en quelle quantité ces commandes de masques, donc les commandes de masques de l'État, ont été passées, ni dans quelles conditions ont été signés ces contrats. Mediapart rappelle en effet que les montants des contrats sont faramineux, quelques 2,5 milliards d'euros selon le rapport d'État de la mission d'information de l'Assemblée nationale qui a été publié le 3 juin, pour un total de 3,42 milliards de masques. Et précise aussi que les conditions financières dans lesquelles ils ont été signés demeurent très opaque. Ces documents, permettraient pourtant de comprendre comment les autorités se sont organisées pour répondre à la pénurie de masques, si en tout cas ce relève Mediapart. Mais en réponse, on a affaire à un refus tout ce qu'il y a de plus légal, et notamment grâce à la loi sur le secret des affaires, loi introduite en 2018 par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Une loi adoptée avec pour objectif, selon la ministre, de, je cite, protéger les entreprises contre le pillage d'innovation et de lutter contre la concurrence déloyale. Fin de la citation. Alors, l'État, la République en marche, protégerait donc les entreprises qui se goinfrent sur les crises avec l'argent public. À l'heure où Macron se prend pour De Gaulle, le général, homme de droite, mais porteur en son temps de l'indépendance de l'État, le pauvre général, il doit se retourner dans sa tombe. Alors on va changer de rubrique avec la fameuse rubrique « Les empaffés du PAF, paysage visuel français ». On va parler de Cyril Hanouna et ses chroniqueurs qui ont fait une révélation sur leur salaire le 18 juin dernier. L'équipe de Sec du Kif, en fait, vivait la dernière émission de la saison. Des happenings ou des déclarations émouvantes étaient donc au programme afin de terminer en beauté. Des images de Mathieu Delormeau expliquant qu'il n'était pas très bien payé pour les émissions depuis son retour en plateau. Des images ont ainsi été dévoilées. L'équipe, en parlant de la crise Covid, a révélé avoir, je cite, dû faire des efforts et a même remercié ses chroniqueurs pour leur geste destiné à aider la chaîne C8 à remonter la pente. Hanouna a même ajouté, je le cite, « Je le dis, c'est vrai que les coûts de production ont énormément baissé lors de ces dernières semaines, après les événements qu'on a vécu. Et vous avez tous fait les efforts nécessaires, donc merci à vous. » Fin de la citation. Valérie Benahim, Jean-Michel Maire et les autres membres de la bande présents ont répondu que c'était tout à fait normal de faire des efforts, d'autant plus qu'ils avaient de gros salaires de leur propre aveu. « Je suis venu en RER, mais ça m'a fait plaisir, même plaisanter Mathieu Delormeau. » Message envoyé à celles et ceux qui subissent les retards de transport au quotidien. Alors, les empaffés, bah, comptez-vous, répondez présent. Gilles Legendre, le fameux président, le célèbre président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Gilles Legendre, invité de Gérard Leclerc dans la matinale sur CNews, ne déclare pas moins que, je le cite, « Je ne veux pas que nous gagnions l'élection présidentielle de 2022 par défaut. » Fin de la citation. Eh bien, on le rassure, ce n'est sûrement pas sa qualité qui les ferait gagner. Alors, on change de rubrique, notre rubrique internationale. On va parler de l'Union européenne. Les 27 de l'UE se retrouvaient vendredi dernier en sommet virtuel pour lancer les tractations sur un plan de relance post-coronavirus massif. Plan qui doit marquer une étape historique dans la construction européenne. La discussion a porté sur la proposition de la Commission européenne d'un instrument de relance de 750 milliards d'euros. Milliards d'euros qui sera emprunté au nom de l'UE sur les marchés financiers, engendrant une dette commune européenne. En clair, en envoyant ainsi la facture aux futurs contribuables. Alors heureusement pour nous, aucun accord n'était attendu pendant cette réunion. Il devait seulement permettre à chaque dirigeant européen de dévoiler ses objectifs ainsi que ses marges de négociation sur cette relance destinée à soutenir une économie européenne sinistrée. Après ce premier tour de table, Charles Michel, le président de la Commission, lancera des consultations en vue d'un ou deux nouveaux sommets en juillet à Bruxelles, mais physiques cette fois-ci. En effet, d'après les observateurs avertis, je cite ces observateurs, une rencontre réelle entre dirigeants avec ses pauses et ses apartés est indispensable pour arriver à un compromis sur une question aussi complexe où l'unanimité est requise. On respire donc. On a le temps avant de voir arriver la facture. Mais attention, pour un diplomate européen, je le cite, c'est un des plus importants projets communs depuis des décennies. On peut parler de quelque chose d'historique. Fin de la citation. L'histoire se moque bien du temps qui passe, c'est bien connu. Alors le dirigeant de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a défendu vendredi les actes des membres de la communauté tchétchène en France lors des violences inédites à Dijon. Violences que pour notre part nous condamnons, comme nous le faisons pour tout acte de violence. Fin de la parenthèse. Revenons à Kadyrov. Dans son message sur le réseau Telegram, il a argué que les membres de la communauté tchétchène avaient agi de cette manière puisque, je le cite, les autorités locales n'ont pas pu mettre de l'ordre elles-mêmes. Mais c'est mon opinion personnelle, a-t-il néanmoins jugé utile de préciser. Alors Ramzan Kadyrov, ancien séparatiste devenu fidèle du Kremlin, qui dirige d'une main de fer la Tchétchénie, région du Caucase russe en majorité peuplée de musulmans, depuis 2007, Kadyrov est accusé par des ONG de réprimer impitoyablement ses détracteurs. Chez lui, les autorités locales mettent de l'ordre par le nettoyage physique. Soit. Il faut aussi savoir que les Tchétchènes de France sont demandeurs d'asile et que depuis ces événements, ces violences, leurs demandes d'asile sont revues à charge. Le Front National surfant même sur la vague du danger terroriste. Par moi. On attend donc impatiemment leur réponse qui pourrait être d'une part « Notre attitude a été inacceptable et nous accepterons les sanctions méritées » et d'autre part à l'attention de leurs ardents défenseurs. Garde tes opinions personnelles, camarade, n'en rajoute pas. Voilà, on va s'offrir notre première pause musicale avec le groupe Europe qui chante The Final Countdown, le compte à rebours final qui est celui d'avant les élections de dimanche 28 juin. On l'écoute, on se retrouve juste après. Donc on reprend notre émission et donc on va passer maintenant à la rubrique Il n'en rate pas une. Donc cette fameuse rubrique où effectivement on regarde un petit peu les bêtises que peuvent dire les uns et les autres, pour ne pas dire les conneries. Alors on va commencer, on va revenir d'abord au coronavirus, avec le ministre Bruno Le Maire qui s'est dit favorable à une prime à l'embauche pour booster l'emploi des jeunes. Je le cite. Je suis plutôt favorable à une prime à l'embauche des jeunes, qu'ils soient en CDI ou en CDD de 6 mois, et une prime qui pourrait s'appliquer dès le mois de septembre, a-t-il déclaré sur France Inter. Il n'a toutefois pas précisé à combien pourrait s'élever cette prime, préférant renvoyer le sujet aux discussions en cours entre les partenaires sociaux du gouvernement, sous l'égide de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Les mesures de soutien à l'emploi des jeunes seront notamment contenues dans le projet de loi de budget rectificatif qui a été présenté mercredi dernier en Conseil des ministres et a été mis en discussion dans les prochaines semaines au Parlement. Sera mis en discussion. Alors coucou les hors-sol, ça ne fait que quelques dizaines d'années que ces mesures sont proposées par les syndicats aux différents gouvernements, y compris au gouvernement En Marche depuis 2017, gouvernements qui ont toujours fait la sourde oreille. À moins que le Covid n'ait eu sur certains des effets bénéfiques, on ne serait pas dans de l'enfumage. En fait, au gouvernement droite, la REM, c'est-à-dire droite-droite, donc, on n'en rate jamais une. Alors, affaire Fillon, entendue le 10 juin par la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice, l'ancienne chef du parquet national financier, Éliane Houlette, a déclaré avoir subi des pressions de la part de sa hiérarchie. C'est en tout cas ce qu'on a appris dans un article du Point mercredi dernier. L'affaire a pris une telle ampleur que le président Macron a même dû saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Mais attention, la riposte n'a pas tardé à droite. Pour la députée européenne des Républicains Nadine Morano, invitée de BFM, je la cite, « Le parquet national financier était devenu un bras armé politique pour assassiner politiquement notre candidat. » Fin de la citation. Sur LCI, son homologue député européen Brice Hortefeux a lui estimé qu'il y avait, je le cite, « des arrière-pensées qui étaient des arrière-pensées très politiques dans le cadre de l'enquête visant les époux Fillon », qualifiant même les déclarations d'Éliane Houlette de « stupéfiantes », pas moins. Dans le même registre, pardon, le député Les Républicains Éric Woerth a affirmé sur Sud Radio, je le cite, « il y a eu un calendrier et accélérer le calendrier, c'était au fond, transformer peut-être les conditions de cette élection », estimant que cela avait pour objet, je cite, « d'empêcher Fillon encore plus d'être candidat à l'élection présidentielle ». Fin de la citation. Bon, oui, on sait qu'il y a eu certainement un calendrier, et venant sans doute de Sarkozy lui-même, Sarko qui n'a jamais publié son Premier ministre, qu'il qualifiait de collaborateur. On sait aussi que la chute de Fillon a profité à Macron, poulain à l'époque de François Hollande. Mais bon, derrière les possibles complots, il n'en reste pas moins que Fillon a grugé sur toute la ligne, non? Alors à droite aussi, ben, on n'aura jamais une occasion de complot. Alors, municipal à Levallois-Perret, le tout est encore monté d'un cran entre Agnès Potier-Dumas, tête de liste des Républicains de la majorité municipale, et Arnaud de Courson, d'hiver droite, l'opposant historique. Objet de la polémique. Jeudi dernier, de Courson, désormais soutenu par la République En Marche depuis sa fusion avec Maude Brégéon, de Courson a envoyé via WhatsApp une capture d'écran d'une vidéo avec un commentaire pour le moins douteux à une militante de sa rivale. Sur le cliché, on voit Madame Potier-Dumas, accompagnée de David Xavier Weiss, qui est son deuxième de liste, montrer quelque chose en l'air en le pointant du doigt. Et le commentaire de Courson, Weiss et le salut nazi qui accompagne la photo. Point d'interrogation. Alors la mise en cause a porté l'affaire sur la place publique. Contraint donc de s'expliquer, de Courson, après avoir argué d'une mauvaise blague envoyée à un ami, ben bonjour la blague. Il a ensuite publié un communiqué intitulé « Halte aux polémiques montées de toutes pièces » et cette fois, il n'est plus du tout question de mauvaise plaisanterie. Le candidat assure que son intention était justement, je le cite, « d'empêcher que cette image transférée par un habitant soit utilisée dans le cadre de la campagne. Je n'ai jamais souscrit à ce type de campagne de dénigrement, surtout lorsqu'elle comporte des insinuations nauséabondes », a-t-il plaidé. Et ensuite alors, il va dénoncer une intrusion incontrôlée sur son compte? Il enverra des fleurs peut-être à son adversaire? À moins qu'il ne charge les Balkany d'avoir monté le coup. Entre les droites, décidément, on n'en rate pas une. Verdict hein, dimanche. Alors Manuel Valls qui sort du bois pour défendre les forces de l'ordre après les affrontements qui ont secoué la banlieue de Dijon le week-end dernier. Interrogé sur BFM TV, le conseiller municipal de Barcelone s'exprime sur le pays qu'il a délaissé sans hésitation après son échec à la primaire du PS au présidentiel de 2017. Je le cite, « La France, ce n'est pas une addition de communautés qui font la paix. La France, c'est la République. Voilà ce qu'a tonné le petit caudillo. avec sans doute un fier mouvement de menton. Donc, il faut, a poursuivi notre exilé catalan, il faut que l'État, les autorités, l'exécutif, soient clairement derrière les forces de l'ordre dans leur mission. Mission très difficile face au terrorisme, face à la violence, face au trafic, face à la violence qui est faite aux policiers. On aimerait comprendre de quoi il a voulu parler exactement. Quel rapport entre les communautés et le terrorisme ? Alors bonjour les amalgames, on croirait entendre du bleu marine. Bref, un de plus qui a manqué une belle occasion de la boucler. Alors invité sur Europe 1, l'ex-commissaire européen, ex-dirigeant politique du PS, aujourd'hui spécialiste de son auto-recyclage au poste de fonctionnaire grassement payé, eh bien Pierre Moscovici, vous l'aviez reconnu, déclare à propos de sa récente nomination à la tête de la Cour des comptes. Je ne serai ni le père Fouettard, ni un panier percé. Fin de la citation. Eh bien, on est totalement rassuré. Il continuera à ne servir à rien. Il n'en rate jamais une, décidément, le fossoyeur de la Grèce de Tsipras. Voilà, ben on atteint notre dernière rubrique de cette revue de détails, la rubrique humour. Dans 4 jours, vous le savez tous, on vote pour le deuxième tour des municipales dans quelques 500 000 communes de France. Dans plusieurs grandes et moyennes villes, oh surprise, la République En Marche s'allie avec la droite pour battre les écolos. On n'invente rien. Ainsi, la principale opposition au Macron à l'Assemblée, selon les propres dires de leur chef de file, cette principale opposition oublie les divergences politiques majeures qui les opposent. Et du côté des marcheurs, bah, rien d'étonnant. Seulement 13% de leur électorat se dit de gauche, au sens large du terme, s'entend si on inclut les écolos dans la gauche. Ah, la politique a vraiment des raisons que la raison ignore. Nouveau et ancien monde serait-il finalement qu'une seule et même arnaque ? Alors, municipal toujours, la droite lilloise appelle à voter Martine Aubry, maire socialiste, face au, je cite, fou furieux écologiste. Le chef de file de l'opposition municipale lilloise, Thierry Pochet, divers droite, a appelé jeudi à voter au second tour pour la maire sortante PS, mettant en garde son électorat contre une victoire des Verts. Je ne souhaite pas que la ville tombe entre les mains d'extrémistes, pas moins. Nous avons donc pris la décision d'utiliser le bulletin Martine Aubry le 28 juin. Nous ne sommes pas socialistes, on avait deviné, c'est un vote de raison. Voilà ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse. Autre citation, les Verts à Lille, ce n'est pas les petits arbres et les petits oiseaux. C'est l'écologie politique avec tout ce que cela comporte de terrorisme intellectuel. Voilà ce qu'a de son côté affirmé Isabelle Mailleux, conseillère municipale de droite depuis 2001 à Lille, en dénonçant le fait qu'il soit resté, elle parle des Verts, je la cite, bien au chaud dans le confort de la majorité des indemnités pendant 6 ans, avant de taper aujourd'hui contre ce qui est leur propre bilan. Fin de la citation. Ouh là 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 là. Alliance La République En Marche droite d'un côté, appel de la droite à voter PS de l'autre. Les écolos deviendraient-ils l'ennemi politique à abattre ? Ben c'est Mélenchon qui va être jaloux. Et pour conclure cette revue de détails, cette dernière minute qui vaut son pesant de détails, sur le compte Twitter de Yann Brossa et Luc Paris, on peut lire, je cite, « Amusant ». Édouard Philippe reproche à son challenger communiste, il parle de Jean-Paul Lecoq, député de Seine-Maritime, il lui reproche donc de nationaliser la campagne du Havre. Mais ça ne dérange pas le même Édouard Philippe de figurer sur les affiches d'un candidat macroniste à Paris. Fin de la citation. Bah allons, allons, cher Yann, pourquoi se gosser de ce pauvre Premier ministre qui n'aura bientôt plus que son poste de conseiller municipal et communautaire au Havre pour se consoler ? Eh bien, comme pour tous les autres, rendez-vous dimanche soir. Et voilà. Ben, cette revue de détails est finie. Et on finit toujours pour cette dernière, car il s'agit de la dernière revue de détails avant les vacances déconfinées. On finit avec notre hommage aux soignantes et aux soignants, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux que le gouvernement continue de réprimer après les avoir qualifiés de héros. Et donc, pour cette dernière revue de détails avant ces vacances, on offre à tous ces gens-là l'intégrale du générique de notre émission. Il s'agit de Light My Fire du groupe Mythic Leaders. Je vous retrouverai peut-être à la rentrée, qui sait. Et pour les votants du deuxième tour dimanche, comme à Villejuif, ne vous trompez pas. Allez, ciao.
say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. I just lit the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. We'll be right back.
Set the night.